Et puis alors, avec ce riz dont on a parlé un des soirs, qu'une certaine lecture sadducéenne de la Torah ferait de la Torah une idole, c'est-à-dire une médiation figée. Mais je crois que j'emploierai peut-être pour vous répondre une formule un peu différente. C'est que le christianisme a désigné comme médiation l'identité d'Israël en effigie, c'est-à-dire a substitué le Christ à Israël. Et peut-être de cela nous parlerons dans le troisième séminaire. Et c'est un peu à cela que je faisais allusion en disant qu'elle a présenté cette figure comme dévoilant le Dieu d'Israël, elle a réussi qu'à le cacher avec, en mettant une idole dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette idole et dans ce mythe dévastateur? Il y a l'identité du peuple d'Israël. C'est Israël en effigie. Et avec une persévérance qui a duré 2000 ans, de faire vivre à ce peuple d'Israël l'histoire de la passion qu'elle désigne du Christ. C'est-à-dire, elle nous a crucifiés pendant 2000 ans. Alors, subitement, on arrive à la Pâque, et puis la chrétienté ne sait pas encore que c'est fini de la crucifixion, qu'on est arrivé à la résurrection. Vous comprenez ce que je veux dire en langage symbolique, hein? C'est-à-dire, nous sommes déjà à Pâques en langage chrétien, dans l'histoire d'Israël, et puis on attend le jour où ils viendront nous dire en disant Shema Israël, joyeuse Pâques. Mais en enlevant le S, chaque à la juive. Voilà, c'est ça le fond des choses. C'est que subitement l'Église se rend compte qu'elle n'a plus de médiateur. Parce qu'il y avait un des deux personnages de trop. Or, voilà qu'Israël est inassassinable. Et donc, elle se demande alors qui est le Christ. Et elle ne parle plus latin. Ou du moins, elle ne cite du latin que ce qu'il y avait comme mot hébreu.
Oui, pour la messe en hébreu. Je suis très
fière
de la messe en hébreu.
Bon, ça, c'est une petite secte. Non, mais je veux dire que le latin a disparu. Or, c'était en latin qu'était cette médiation pour les catholiques, en grec, pour les... Et l'Église n'a gardé du latin que ce qu'il y avait comme mot hébreu. Amen, alléluia. Il fallait qu'elle les garde, ne serait-ce que pour authentifier la prononciation sfarade, mais... C'est tout ce qu'elle a gardé. Bien, en tout cas, pour revenir... revenir au problème, si vous voulez, avant d'aborder le Maharal, on va prendre, si vous voulez, 5 ou 6 minutes de hafsaka, mais pas plus, parce qu'on a beaucoup à faire. Aérer vite.
Laissez ouvertes,
rappelez-moi, je vous donne quand même une indication sur le texte du Paradis Tzrak. Et avant cela, je vais vous donner quelques explications pour cet après-midi, et en vous demandant vraiment d'essayer d'y réfléchir. Cet après-midi, nous allons d'abord avoir à 3h la dernière conférence des échappées sur le paganisme, et qui sera faite par un des grands égyptologues contemporains sur l'égyptologie, à 3h. En général, nous sommes assez handicapés par le fait que le dimanche après-midi, avant la table ronde, il y a aussi une conférence. C'est une question d'organisation de l'horaire, et je pense qu'on aura à repenser d'ailleurs toute la structure de ces séminaires, parce que le débat qui suit ensuite à la table ronde est toujours handicapé par le sujet de la conférence précédente. Alors en tout cas, vous qui êtes là, essayez d'en tenir compte, de ne pas, après le débat sur l'égyptologie, il y aura une hafsaka, mais de ne pas reprendre le même sujet et d'embrayer sur le sujet général dont l'intitulé est très différent et qui est, je ne sais pas, vous avez un... Je ne sais pas comment le dire. Il vous reste un programme. Voilà, la conférence sur... La conférence à 3h. En hébreu, nous avons la même expression pour dire ce qu'en français on est obligé de traduire par deux expressions radicalement différentes. C'est Nachon. Je vais la prendre un peu sous une autre forme. Disons de Dieu qu'il est Mechaye Metim. Et ça veut dire en français deux choses très différentes. Qui fait vivre les mortels, Mechaye Metim. Et Mechaye Metim, ça veut dire aussi qu'il ressuscite les morts. Mais en hébreu, on entend les deux choses dans la même phrase, dans la même formule. Vous suivez? Mechaye Metim, ou Mechaye Metim, c'est la même phrase. Première lecture, qui fait vivre les mortels. Deuxième lecture, qui ressuscite les morts. Alors essayez d'entendre qu'à un certain niveau, en hébreu, c'est la même chose. Et que l'expérience de Mechaye Metim qui ressuscite les morts, nous l'avons d'abord dans l'expérience de Mechaye Metim qui fait vivre les mortels, parce que c'est la même chose. Est-ce que c'est clair? En hébreu, Le mot de met signifie à la fois mort et mortel. Parce que si je suis mortel et qu'il n'y a rien après, je suis déjà mort. Voilà, vous voyez comment ça ressemble ? Or, comme je suis vivant, ça veut dire que je suis déjà ressuscité. Puisque ma nature est d'être mortel, c'est-à-dire mort. Or, je vis. Bon. Vous voyez comment ? C'est clair. Comment en hébreu, c'est clair ? Et alors, un langage non hébreu projeté là-dessus, ça fait exister des paganismes. C'est-à-dire, il nous faudra un mythe qui marche, d'un cadavre qui traverse les murs. Ça, c'est du paganisme. Mais la connaissance que Dieu ressuscite les morts ne passe pas par ces images païennes dans la tradition juive. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas arriver qu'avec une machine respiratoire X, un médecin Y et ressusciter un cadavre Z. Ça peut arriver, c'est du folklore, c'est du feuilleton, c'est de l'anecdote. La théologie ne se base pas là-dessus. Les évangiles, oui. Vous comprenez la différence. Là, est-ce que c'est clair? C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une expérience que, si ça sera, alors c'est déjà. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est une définition de la foi hébraïque. Puisque nous savons que ça sera, alors c'est déjà, malgré les apparences. Est-ce que c'est clair? Attendez, je voudrais ajouter simplement une chose, et là je me branche sur le commentaire de Paraditzrak. Désolé qu'on ne l'ait pas lu ensemble, mais lisez-le puisque vous l'avez. Dit ceci, en se basant sur Rachid d'ailleurs. Non, je ne peux pas rentrer dans le détail du texte. Dit ceci, c'est la raison pour laquelle la tradition nous demande de fermer les yeux pour dire Shema Israël, Hashem Elkenu, Hashem Echa. C'est-à-dire de nous mettre maintenant dans une situation où nous faisons abstraction de l'état du monde maintenant, où c'est pas encore comme ça, pour dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On se branche sur le Atid Liyot de Rashi. Alors il faut fermer les yeux pour s'extraire du monde extérieur. C'est clair ce que je dis là. Donc, ça veut dire qu'il y a l'effectuation d'une proclamation qui fait exister pour moi maintenant, dans un acte liturgique, ce qui sera objectivement pour tous à la fin des temps. Et c'est comme ça que le Paraditzrak réintègre Rachid dans la forme du rite. Vous comprenez? Alors que nous dit-il, le jour de Rosh Hashanah, nous proclamons la souveraineté du Dieu sur tout l'univers, ce jour-là, le verset est tout à fait différent. Hashem Elokeinu, et non pas Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voyez le décalage. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Alors, on pourrait multiplier ces exemples. C'est-à-dire de cette relation à une évidence de vérité que si cela sera, alors c'est que c'est déjà. Et c'est une connaissance au-delà des apparences. Bon, je crois qu'on peut se borner ainsi. Bien. Et il nous reste un autre sujet. Au fond, il est 1h14, 15, 16, 15. On peut rester, si vous voulez, jusqu'à 1h moins quart.
C'est midi 16.
D'accord, midi 16, une demi-heure comme ça. Bon. Alors, on va diviser la demi-heure en deux parties d'inégale distance. Si vous avez encore une question de lucidation, vous deux, on va y réfléchir. Ah oui, vous. Et après, je vais reprendre le problème de Dina et de Shrem très rapidement. Oui, je vous écoute. J'entends pas, hein. Non plus.
Si je pouvais ressusciter quelqu'un avec de l'affect, je suis d'accord. S'il est déjà mort et on peut une machine, une situation artificielle, tout ce que vous voudrez. Mais s'il n'est pas encore mort et que la machine lui permet de survivre, et bien sûr une durée de vie plus longue, c'est un autre problème.
C'est l'autre formule, c'est-à-dire le fait d'être capable de faire vivre le mortel et avec un indice d'intervention qui est déjà de l'ordre de ressusciter le mort. Mais je veux dire, c'est que la mentalité païenne a toujours besoin de références à des maquettes qui sont les idoles pour essayer d'exprimer ce que l'hébreu exprime par connaissance directe. Et si vous voulez, l'hébreu n'a pas besoin de référence à des scènes magiques pour savoir que les morts ressuscitent, bien qu'on n'ait jamais vu ça encore. Ça arrivera Bayomahou, dit le texte. Pourquoi? Parce qu'il sait, se connaissant dans sa manière d'être de mortel qui vit, que c'est la même chose. Il n'y a pas plus de mystère qu'un mortel vive et qu'un mort ressuscite. Alors, fonder cette foi qui venait des Hébreux sur des imageries idolâtres, ça c'est pas le judaïsme. C'est ce dont provisoirement les nations ont besoin pour se rattacher à la foi du Dieu unique, qui est celui qui fait vivre les mortels. Alors il leur faut des images pour raconter que les cadavres se lèvent et traversent les murs. Enfin, j'essaie de pousser un peu les choses à la limite pour montrer la différence de mentalité. Alors lorsque, disons, un théologien juif entend parler, par exemple, un théologien des nations, il comprend de quoi il parle. Mais ce qu'il n'arrive pas encore à lui expliquer, jusqu'à ce que la langue épurée arrive, c'est qu'il le dit de manière idolâtre. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors vous voyez pourquoi le dialogue est impossible jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'on disposera d'une langue épurée. Et peut-être que ça commence, puisque le monde entier commence à apprendre l'hébreu. C'est peut-être pas pour rien. Chacun a ses motifs. Un, c'est pour devenir, comment on dit, Karian,
speaker
à la radio du Caire. Enfin, peu importe. Par exemple, mais est-ce que c'est l'hébreu qu'ils apprennent?
Je sais que dans la formation des aviateurs égyptiens, et même dans tout Moyen-Orient, l'hébreu fait partie de leur
oui.
langue de formation.
Tellement voilà, il faudrait qu'ils apprennent l'hébreu avec les rabbins. Vous rappelez le Malbim, hein? Bon, je referme la parenthèse. Je vais essayer peut-être de réanalyser très, très rapidement ce problème de Mechayim Metim. Ce que je voudrais faire entendre, c'est ceci. Il y a une sagesse de la langue en tant que langue propre à l'hébreu. D'ailleurs, je pense qu'il y a une sagesse de la langue en tant que langue propre à toutes les langues. Il y a d'ailleurs un privilège de 4 langues. Je reviens un peu sur une citation qu'avait fait M. Dufour quand il a présidé mardi soir la conférence de M. Rosti. Il nous a cité la Megillah, le traité de Megillah. Mais je vais citer une autre référence qui se trouve dans Devarim. Une minute, je retrouve le verset pour vous donner la référence du verset. Hachem, Misina, Iba, Ophia, Mehar, Paran, Sedan. Ça va. Voilà, je vais vous donner la référence, vous le rechercherez. C'est le verset 2 du chapitre 33 dans Deutéronome. Deutéronome 33, 2. Voilà, le verset dit ceci. Hachem Misinaï Ba, celui qui est Dieu vient du Sinaï. Bezarach Miseir Lamo. Et il resplendit des montagnes de Seir. Au Fiar Mehar Paran, il apparaît de la montagne de Paran, Beata Merivevot Kodesh, et il vient, il arrive des myriades de la sainteté, Mimino et Jdat Lamo. À sa droite, il y a une loi de feu. Bon, on n'a rien compris, mais je vais rattacher ça à notre problème. Et ici, le référent, chapitre 33, verset 2. Alors, regardez l'explication, si vous avez, de Torah Tmima, sur laquelle je vais me baser. Il y a ici allusion aux langues privilégiées parmi toutes les langues humaines pour pouvoir véhiculer ce qu'enseigne la Torah des Hébreux. Et je vous dis tout de suite l'explication pourquoi c'est ces langues-là et pas d'autres. C'est les langues de la famille d'Abraham. Alors vous avez Hachem, Misina, Iba, ça c'est l'hébreu. Bezarach, Miseir, Lamo, il resplendit de la montagne du Seir, c'est le grec et le latin. Ophi, Amar, Paran, c'est l'arabe. Et Ata, Meriv, Votkodesh, c'est l'araméen. Puisque le mot de Ata est un mot araméen dans ce verset. Et ça veut dire venir. Comme ça veut dire d'ailleurs en arabe classique. Ato, ça veut dire venir. Le Torah Tmima explique, ce sont les langues qui ont été parlées par la famille d'Abraham. L'araméen, c'était la langue de la famille d'Abraham, Laban, l'araméen. Ishmaël a parlé finalement l'arabe. Et Ésaü a parlé finalement le grec et le latin. Or, on ne peut pas ne pas voir que c'est à travers ces langues-là que, de façon privilégiée, en quoi que ce soit, la Bible a été dite à l'humanité. Elle n'a pas été traduite de l'hébreu. On a projeté ces langues-là sur l'hébreu. Il est arrivé des catastrophes, c'est autre chose. Mais voyez donc là, la cohérence de ce problème. Et là, je voudrais simplement vous rappeler un verset que j'ai cité chez vous, là-bas, enfin chez vous, chez eux, okay, qui est le verset 5 du Deutéronome, du premier chapitre du Deutéronome, comme l'explique Rachid. Au début du livre de Devarim, la Torah nous annonce que Moïse va récapituler toute la Torah en l'expliquant à la génération des fils qui va rentrer dans le pays d'Israël. Et le verset dit ceci. Be'ever Yarden, au-delà du Jourdain, Be'eret Moab, dans le pays de Moab, Roïl Moshe, Moïse a commencé Be'er et Torah Azot Lemor, à expliquer cette Torah en disant. Rachid sur Be'er et Torah Azot dit Be'shivim Lachon, en 70 langues. Bon, alors ça veut dire donc, d'après ce commentaire, qu'il est évident que la Torah peut être dite en 70 langues, à travers d'ailleurs, de façon privilégiée, ce véhicule privilégié des quatre langues dont je vous ai parlé. C'est recodé, okay? À une condition, c'est que ce soit Moïse qui parle, et c'est ça qu'on oublie. C'est-à-dire, si l'hébreu traduit dans une autre langue, alors ça passe dans une autre langue, parce que c'est l'hébreu qui parle. Si c'est un homme d'une autre langue qui veut traduire la Bible des Hébreux, il va commencer par projeter sa langue sur la Bible des Hébreux, et après il va faire dire aux Hébreux ce que lui n'osait pas dire. Vous avez compris le problème. Alors, c'est une minute. C'est extrêmement important. Et un jour, il y a très très longtemps, je discutais avec le père Dubois, et on parlait de ce fameux passage de la greffe de l'olivier sauvage sur l'olivier franc, c'est comme ça qu'on traduit. Et alors, je lui ai dit, bon, vous nous donnez cette image qui est très importante, d'ailleurs, dans la prospective de l'histoire du christianisme par rapport à la Bible, que tout se passe comme si les nations ont été greffées sur Israël, comme l'olivier sauvage est greffé sur l'olivier franc, c'est comme ça que traduisent les Bibles. Et j'ai dit, mais la greffe n'a pas pris, parce que vous avez fait l'inverse, en réalité. Et parce que vous n'êtes pas greffé sur Israël, vous êtes greffé sur des Bibles en papier. Alors le jour où les prêtres chrétiens seront formés dans les écoles rabbiniques, à ce moment-là, il s'agira de ce passage de Saint Paul, la greffe. Alors, s'il avait osé, il m'aurait répondu, mais c'est déjà le cas. Mais j'ai rien. Voilà, c'est ça le fond du problème. En réalité, les nations ont été greffées sur des traductions de la Bible faites par des goïms. Et alors, qu'est-ce qu'on va leur opposer? La Bible du rabbinat? Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, finalement, il faut être greffé sur Israël et pas sur des Bibles en papier. C'est ça, pour les choses. Oui, vous avez la parole.
Mais c'est comprendre quand même les Dathim qui ne veulent pas, qui ont décidé contre la tradition de parler la chambre à cause, de parler. C'est vraiment de comprendre.
C'est tout simplement, je pense, que ça fait partie de tout un ensemble qui consiste pour eux à refuser le temps où les Juifs redeviennent les Hébreux. L'hébraïsation tout court dans toutes les dimensions. Je voulais finir d'expliquer. Et que finalement, le fait d'être, si vous voulez, frustré par le fait que ce soit les autres qui ne sont pas d'Atim qui parlent hébreu. Mais il y a un point important, c'est qu'ils veulent désigner une certaine manière de dire l'hébreu qui véhicule en réalité des dictionnaires étrangers et non pas l'hébreu lui-même. D'accord, attendez, je vais vous dire. Lorsqu'on étudie l'hébreu israélien, alors dans n'importe quel dictionnaire élémentaire, vous avez tout de suite la référence. Ce mot fait partie du Lachon HaKodesh, ça veut dire Mikraï, de l'hébreu du Mikra. Ce mot fait partie du langage de la Mishnah. Ce mot fait partie du langage de la Gemara. Ce mot fait partie de l'hébreu de la Makolet, comment dire, de l'hébreu de l'épicerie. Bon. Et ça veut dire que ça ne trompe personne, c'est très clair, on sait très bien quoi véhicule quoi. Le fait que vous signalez, c'est le refus d'Israël purement et simplement avec tout ce qu'il y a dedans. Si vous permettez que je vous raconte une histoire abominable. Ça prendra du temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème est déjà posé. Et nous avons des problèmes avec les grammairiens modernes qui sont en train de parler une sorte d'araméen qui s'appelle l'hébreu. Mais pour nous, c'est très clair, c'est pas le Lachon HaKodesh. Pauvre, on parle d'autre chose. Et est-ce que c'est clair? Il vaut mieux encore. Je ne sais pas comment vous dire que les gosses dans la rue jouent et se disputent en hébreu que dans une langue étrangère. Alors vous allez me dire, mais c'est de l'hébreu, c'est pas de l'hébreu. Ça fait rien, c'est l'hébreu sur terre. Et l'hébreu du ciel, on l'a aussi. Il faut être un peu plus tolérant que ça.
C'est ça, tolérant, c'est qu'on leur demande, au point de vue théologique, au point de vue religieux. Vous avez bien parlé tout à l'heure que le nom de Dieu, c'est à travers tout ça, à travers tous les mots et toutes les lettres de la Torah, n'est-ce pas?
D'accord.
Vous avez bien dit,
sont eux, d'ailleurs, qui disent dans les mois, dans la part. Si vous rentrez dans un bain, vous n'avez pas le droit de dire shalom à votre prochain, parce que le mot shalom, c'est que la loi est shalom. Dieu sera appelé shalom, un jour, n'est-ce pas?
Il faut mettre une serviette, d'accord.
Alors, eux, ils disent que pas seulement que la chagrin n'est pas pure, n'est pas tout à fait exactement selon le codex, en plus, on a amené, on a apporté des démons étrangers, tout à fait internationaux, du codex, qu'on a mélangé avec la pure sanctifiée de la chagrin codex, et même quand on parle de la chagrin codex, on ne s'en prend pas.
Je vais essayer de vous répondre. Je ne crois pas qu'on arrive à résoudre le problème aujourd'hui, parce qu'une question de. D'un historique énorme de sensibilités différentes qui se heurtent. J'essaie de vous dire, à travers le temps et les siècles, surtout depuis l'émancipation, mais ça dure depuis longtemps, finalement on est arrivé au fait que seuls les rabbins parlaient l'hébreu. Et puis c'était devenu de l'hébreu de rabbin. Bon. Et alors subitement, vous avez un peuple qui parle l'hébreu, alors ça choque. Il y a aussi des juifs qui parlent l'hébreu. C'est l'hébreu des juifs. Alors il faut rentrer tout ça dans une espèce de réconciliation des rescapés entre eux. On est rescapés d'une histoire terrible qui s'appelle l'histoire juive. Vous savez que la plus grande blague juive, c'est l'histoire juive. Oui. Non, mais il ne faut jamais leur faire de reproches avec une voix en colère. Parce que réciproquement, ils ont autant de motifs de répondre avec une voix en colère. C'est ça le fond du problème. Bedarkenoam. D'accord. Alors, je crois qu'on est arrivé à un stade qu'aucun problème ne pourra se dénouer si on n'envisage pas le programme de la réconciliation des rescapés. Parce qu'on est en train de se projeter des culpabilités innocentes et à tour de rôle réciproquement. Et je ne sais pas comment vous dire. Je vous donner un petit exemple que je citais encore dans la semaine. Il y a quelques années, quand ma fille apprenait l'arabe au lycée hébreu à Jérusalem, avec sa petite cousine qui apprenait aussi l'arabe, et alors que je les entendais préparer leur cours d'arabe en hébreu. Eh bien, il faut le faire. Vous comprenez? Et alors, ça choque l'histoire juive. Oui, mais c'est peut-être l'histoire juive qui est choquante. Qu'elle n'était pas normale. Que seuls les rabbins parlaient l'hébreu. C'était pas normal. Voilà, c'est ça le fond du problème.
Les quatre langues que vous avez citées, qui est devenu l'araméen
aujourd'hui? Il est indispensable. Indispensable pour. D'abord pour comprendre les commentaires.
Il est venu dans le monde moderne.
Ah, il est encore parlé par des petites communautés chaldéennes et juives aussi. Il y avait un petit village, j'oublie son nom, je crois que c'est Moudier, pas Moudier, ça me reviendra. Un petit village en Israël qui a toujours été habité par des juifs depuis le temps du deuxième temple et leur langue c'était l'araméen. De temps en temps, on allait leur demander des renseignements, ça veut dire quoi vraiment? Elle dit, attends que je demande à ma belle-sœur. Mais je vais vous donner un exemple. Lorsque nous étudions les évangiles, je parle nous les rabbins, il est évident que ça ne nous suffit pas de lire en grec. Il faut qu'on reconstitue l'araméen derrière le grec pour savoir de quoi il s'agissait. Et on a des surprises. Parce qu'entre l'araméen et le grec, il y a des inversions sémantiques. Il faut remettre les choses en araméen. Et on lit les choses autrement. Alors un jour viendra cette grande surprise. Qui nous arrive de dire déjà à Jérusalem à des théologiens chrétiens que pendant 2000 ans ils avaient dit les chrétiens parlaient, il faut qu'on vous aide à vous les juifs à lire la Bible, et que subitement ils vont découvrir que c'est les juifs qui doivent les aider à lire les évangiles. Et il y a des surprises comme ça dans l'histoire. Et pour ça on a besoin de l'araméen dans tout le monde.
De traduction
quand même. Daniel, c'est pas la Torah, c'est le Touvi, mais en fait, non, je l'ai traduit. Bien. Ah, Ina de Mahouda Sardina. Donc, on arrive. Ok, combien de temps il nous reste?
Baruch Hashem. Baruch Hashem, c'est le jour Rishon, et je vois encore comment ça va. Vous comprenez ce que je veux dire?
C'est grâce à des pastilles qui s'appellent Euphon. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes, mais.
Cinquième lecture du chemin.
Non, non, non. Elle n'a pas oublié, hein? Eh bien, rendez-vous au prochain séminaire.
C'est quand?
Ah, le prochain. Au mois de mai. Enfin, si, c'est au mois de février.
Quelle date?
Mais je ne sais pas encore, on ne m'a pas dit au bureau. Peut-être qu'on le saura cet après-midi, déjà. Non, parce que je ne peux pas vous dire ça en une phrase. Et ça serait... Bien, alors, voilà, je voudrais d'abord vous lire quelques versets qui racontent ce qui se passe dans l'histoire de la génération de Caïn. Donc, essayez bien de comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, nous reprendrons l'histoire de Dinah et de Shrem, que je vous rappelle brièvement, enfin, j'en ai parlé déjà cette semaine. Hein. Et il y a aussi des personnes qui n'étaient pas là, alors je le répète. Et puis, je voudrais surtout vous parler de vos questions, parce que je ne sais pas à quoi vous voudriez que je réponde, donc vous m'interrogerez vous-même. Voilà, nous avons dans le récit de la constitution de la famille de Jacob, qui va être donc la racine de la communauté d'Israël, de Knesset d'Israël, de la société d'Israël, un récit qui est très, extrêmement important pour nous faire comprendre aussi de grandes étapes de notre histoire, en cela que les différentes tribus, leur indice particulier, leur style particulier, leur manière d'être Israël en Israël, c'est le problème des 13 tribus, vient de des civilisations extérieures. Tous les enfants de Jacob sont conçus et naissent chez Laban, c'est-à-dire dans la civilisation extérieure du temps. De manière très analogique, succincte, de la même manière qu'après 2000 ans de notre exil actuel, nous revenons non plus en tribu à la manière du temps de la Bible, mais en communauté différente, dont le style différentiel vient de la civilisation extérieure. C'est clair jusque-là. Bon. Par conséquent, c'est très important de préciser cela, l'unité de l'Israël qui se distribue en différentes tribus vient de l'unité hébraïque d'Israël. La multiplicité intérieure, c'est le reflet de la multiplicité des nations. Et je sais que je risque de vous choquer parce que je parle trop rapidement. Mais disons, lorsqu'un juif marocain arrive en Israël et devient le voisin d'un juif polonais qui est arrivé en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Deux juifs sont revenus. Ça, c'est banal, on s'y attendait. Ça a mis 2000 ans, mais on s'y attendait. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Maroc et la Pologne sont arrivés avec eux. Est-ce que c'est clair? Pas de n'importe quelle manière, déjà notablement judaïsés. Je veux dire, je ne sais pas comment dire, vous comprenez l'idée, à travers le filtre du juif. Et finalement, si Israël, dans la perspective messianique, biblique, auquel les nations croient, si Israël, pour l'avenir, sera cette manière d'être homme, cette matrice, cette société qui mettra à l'abri les manières d'être homme des nations, ça passera à travers leurs juifs. Et alors d'une certaine manière, dans le principe, les nations sont jugées dans la manière dont ils se sont conduits avec leurs juifs, parce qu'ils n'auront pas d'autres délégations que leurs juifs qui seront arrivés là-bas. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Il n'y en a pas d'autres. Et alors, ils avaient intérêt, les nations, à envoyer les meilleurs de leurs juifs. Non, ils les ont enterrés ici, ils nous ont envoyé les autres. C'est schématique, mais en fait, c'est un peu comme... En tout cas, revenons au problème. C'est-à-dire, normalement, c'est le ministère de l'Intérieur ici, et pas de l'Extérieur, qui devrait s'occuper de la Halif. Qui c'est votre ministre de l'Intérieur?
De faire.
Il ne dirait pas non, hein. Bon. Et alors, ouais, ça viendra. Le jour où ils diagnostiqueront ça, c'est quand ça sera trop tard, mais ça viendra. Et alors, c'est très important. Toutes les tribus d'Israël, les enfants de Jacob, les Shpatim, sont conçus et nés chez Laban, et d'ailleurs ils sont les fils des filles de Laban, puisque Léa, Rachel, Zilpa, Bila, c'est la matrice modificatrice de l'identité Jacob dans Réhouven, Shimon, Lévi. C'est clair. Il y a un cas particulier dont j'ai parlé Shabbat, n'était pas tout ça à Shabbat après-midi, c'est le cas de Benjamin, qui est conçu dans l'exil et qui naît en arrivant en Israël. Un cas particulier de la force de Benjamin, de la qualité de Benjamin. Mais je pense que le principe est très clair. La multiplicité des nations se reflète dans la multiplicité déléguée des tribus d'Israël. Et l'unité de l'ensemble se fait en Israël, dans l'unité d'Israël. Là, il y a un chapitre particulier de ce problème. C'est clair, jusque-là, je ne vais pas trop vite. Il y a un chapitre particulier, c'est le problème de la 13e tribu. On apprend, je ne peux pas dire tous les détails à la fois, mais l'essentiel au moins. On apprend, je vais vous donner le chapitre, c'est dans Vayetse. Dans le chapitre, donc, à partir du chapitre 28, 29, 30, vous voilà tout cela.
On apprend que Jacob, de ses quatre femmes, a eu 12 garçons, 8 enfants de Rachel et de Léa, et 4 enfants de Bilha et Zilpa, et une fille, Dina. Le Midrash intervient sur la naissance de Dina de façon extrêmement importante, et je vous le signale, pour ne pas esquiver le problème, mais c'est un problème pour lui-même. Le Midrash nous dit, en réalité, Dina a été conçue comme un garçon, mais née comme une fille. Ça ne veut pas dire que c'est le modèle de toute naissance féminine, je ne sais pas. Mais il y a là un principe très important. D'accord. Le Midrash donne les raisons qu'il donne, mais le fait est très important. Ça veut dire qu'il y a un point de féminité qui sera donné à cette identité Israël à travers ces 12 tribus qui fait apparaître un problème très important pour que l'unité dont nous avons parlé, c'était la lecture au niveau anthropologique des enfants de Jacob disant à leur père, Shema Israël, vous vous rappelez ? Bon. Cette unité se fasse, il faut trouver un personnage mystérieux qui serait le mari possible de Dina, de telle sorte de fonder la 13e tribu. Pourquoi ce personnage mystérieux ? Parce que, bien évidemment, il n'est pas d'Israël. C'est clair. Et donc, d'où il peut venir ? Il peut venir que des goïms, mais pas de n'importe où. Et la Torah nous raconte comment Jacob va disposer les données du mariage possible de Dina. Nous allons voir que ça échoue. Mais avant que ça échoue, nous allons lire cette stratégie de Jacob pour marier Dina. Et qu'est-ce qui se passe ? C'était un moment messianique très important. Parce que s'il marie Dina, il a 13 tribus, donc l'unité d'Israël, mais en même temps, Israël est unifié avec les nations qui sont unifiées avec Israël à travers le mari de Dina. Et vous avez compris l'importance. Donc c'est vraiment le prince charmant, cet homme-là. Un personnage messianique mystérieux, le gendre possible de Jacob.
Ça ne dit pas la même chose des femmes des fils.
C'est un autre problème. Les femmes des fils, ça renvoie à un problème important. Il y a deux midrashim fondamentaux. Étant donné qu'ils sont Israël, l'homme authentifié, vous vous rappelez, non, tout le monde n'était pas là, mais le premier coup, mardi matin, vous vous rappelez que Adam a pour valeur numérique
40.
Multiplié par 12, ça fait 540, plus l'unité de l'ensemble, ça fait 541, ce qui est la gamatria de Israël. Ça veut dire chacune des tribus est une manière d'être homme qui s'appelle Adam. Et comme Adam, chacun de ces Adam a sa Chava. Ils sont nés avec leurs jumelles. Ça, c'est le premier midrash. Vous suivez ? Bon. Deuxième midrash nous dit, mais je n'ai pas le droit de vous citer ces choses-là sans les expliquer, mais il faut 2 heures. Alors je vous les cite quand même, mais ne me provoquez plus, là, comme ça. Deuxième midrash dit, qui prend les choses à un niveau existentiel, alors là, c'est un niveau essentiel, c'est qu'il y avait, comme pour Judas, une femme, tzadeke, qui s'appelait Tamar, tzadika Tamar Yifrach, pour chacun d'entre eux, il y en avait une, chez les Cananéens, mais qui étaient des Sémites clandestins chez les Cananéens. Des Sémites, c'est-à-dire les descendants de Shem lui-même, bien avant Ever, l'antérieur, le plus antérieur de la souche où vient Abraham. De la même manière que Judas retrouvait Tamar, et après une recherche à la loupe, vous vous rappelez, et bien chacun d'entre eux avait aussi sa Tamar, si je veux dire, sa Dekhetra. Rappelez-vous le verset de Tehilim, Tzadik Katamar Yifrach. C'est pourquoi il dit Tzadeka Mimeni. Et alors, ces deux midrashim sont vrais tous les deux. Un dans l'essence de l'identité, l'autre dans l'existence, comment ça se passe. Et donc, ça veut dire que cette unité de l'ensemble, si on trouve ce prince Arthur, comme je voulais appeler, le prétendant de Dina, si on le trouve, c'est le moment messianique définitif. Parce que Israël s'unifie, en s'unifiant, il s'unifie aux nations qui s'unifient à travers Israël et tout va bien. Et alors on va voir que, on pourrait traduire El Mazal d'Israël, ce prince Arthur, on l'a cherché partout, on l'a trouvé nulle part. Je vais essayer d'expliquer cela comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Shrem ? Allez, ça s'est passé à Shrem. Alors, je vous lis d'abord comment la Torah nous indique la catastrophe de la civilisation humaine dans la civilisation de Caïn, à laquelle doit porter remède Israël de la Torah. Et ça se trouve au chapitre 4, C'est à partir du verset 17. Lorsque Caïn a fondé sa cité, sa civilisation, il l'a fondée sur la suppression de Abel. De ça, nous avons parlé dans d'autres séminaires. Et vous devinez comment on pouvait définir une cité fondée sur la suppression d'autrui. C'est le drame et le risque et le péril de toutes les sociétés civilisées. Lorsque le problème social pur et simple de l'organisation de la cité prend le pas sur le problème moral des rapports entre personnes. C'est clair jusque-là. Je pense que ça suffit. Comment ça se traduit en langage de la Bible? Verset 17. Vayedar Caïn et Ishto, et Caïn connut sa femme, Vatahar, elle conçut, Vatelet et Hanor, et elle enfantera Hanor, qui est le nom du fils de Caïn. Vayi Poneir, et il construisit une ville, Caïn, Vaikra Shemaïr, Keshem Beno Hanor, et il nomma le nom de la ville comme le nom de son fils Hanor. Ici une indication apparemment anecdotique, folklorique. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire de savoir que Caïn a construit une ville et qu'au lieu de l'appeler Stalingrad, il l'appelait Hanor. Et, pardon ? Non, oui, mais c'est vrai. Enfin, de parler des villes de Caïn. Et, parce que bien sûr, Petrograd, ça fait rétrograde. Mais, là, ce que je veux dire, c'est ceci. Il y a une espèce de couche superficielle du problème, qu'il a voulu immortaliser le nom de son fils, que c'est pour lui faire honneur, faire honneur à Hanor, on donne son nom à un monument qui sera la ville, plus qu'un monument. Là, je crois que c'est une projection d'une mentalité très tardive, littéraire très tardive, sur le texte biblique. C'est projeter une mentalité 17e siècle là-dessus. Et il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est ceci. Jusque-là, c'est l'homme qui avait le nom. On désigne par le nom l'homme. On va prendre le nom à l'homme, on va le donner à la cité. C'est-à-dire on va faire passer le nom de la personne à l'impersonnel. La cité va prendre le pas sur l'homme. C'est la catastrophe. Vous voyez, la conséquence du principe de suppression d'autrui pour fonder la cité mène à la cité impersonnelle. Et voilà, on le laisse en suspens, tous les sursis sont donnés, en fin de compte, saturation de violence, le déluge arrive, et cette première tentative d'assimilation humaine est annulée. Bon, alors je retiens donc cet élément. Il est arrivé dans l'Antiquité, nous dit la Bible, que l'homme a fondé la ville et a donné à la ville le nom de l'homme. C'est la catastrophe de l'échec de la morale. C'est clair jusque-là. Voilà que lorsque Jacob revient de chez Laban, avec comme problème comment marier Dina. Et il semble-t-il qu'il y a une convergence miraculeuse à l'extérieur. On nous dit qu'il arrive à un endroit qui s'appelle Shrem, et où le prince de la ville a le nom de Shrem. Alors je vous décode cela très rapidement, ça veut dire qu'il a entendu dire, il savait que quelque part dans le monde, il y avait une ville qui commençait à rendre le nom à l'homme. Alors il s'est dit, c'est là-bas qu'habite le prince charmant. C'est là-bas que l'humanité commence sa propre rédemption de la catastrophe du temps de Caïn. C'est lui, comment dire, le trait d'union. Vous suivez ? On va voir ça échoue. Mais nous avons déjà toutes les indications de la problématique de cet événement messianique colossal. On a trouvé le prince Arthur. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous me poserez des questions par la suite, je suppose. Qu'est-ce qui se passe? Et je peux vous le montrer très en détail. Jacob s'installe à côté de cette ville de Shrem, initie les habitants de Shrem à la civilité, en partant de la civilité à la moralité. Il leur apprend comment on fait un mariage. Et le mariage, c'est les premières données de la relation à autrui. Donc on va arriver à la Torah de la rédemption de la personne humaine. Tout est prêt. Et alors, à ce moment-là, il dit à Dina, « Eh bien maintenant, ma fille, tu vas aller chez les princesses et tu vas demander avec qui on se marie dans cette ville. » Et c'est comme ça que le récit commence. Et Dina est sortie pour prendre une tasse de thé chez les filles de la ville. Et puis, le prince, rendez-vous, comment on dit ça, Shidurken, le prince était là, il a vu Dina, coup de foudre, et puis il se la demande en mariage, comme on dirait à Babelouet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, nous dit la Torah, Jacob est très heureux. Il dit, ça y est, on a trouvé le prince charmant. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Hein? Et alors on commence à préparer le mariage. Mais en attendant, alors que Shrem avait appris comment on fait un mariage, et qu'un mariage, c'est pas un accouplement, etc. Je m'excuse des mots grossiers, va violer contre nature cette Dina qu'il aime. Alors les frères de Dina interviennent et disent, ben voilà, le programme était là, mais c'est un échec. Et alors commence une longue histoire. Le peuple d'Israël, descendant de Jacob, va voyager partout pour chercher ce prince charmant. Là, je voudrais un peu vous identifier d'un point de vue plus existentiel. Et c'est l'histoire de toutes les communautés juives. Elles étaient persuadées que partout où elles arrivaient, c'était là qu'il y avait Shrem. Les juifs allemands en Allemagne, les juifs français en France, etc., etc. Nous étions sûrs que ce Shrem, c'était un français. Les juifs allemands ont été sûrs qu'il était allemand. Et vous comprenez ce que je veux dire? Et finalement, chaque fois, la même scène se reproduit dans un style propre à chaque époque et à chaque civilisation. Il se dévoile que Shrem, c'est quand même un barbare. Et donc, il n'y a pas de Shrem. Mais on voit, si vous voulez, quelle est la perspective de cet enseignement. Et alors, il nous reste qu'une stratégie de substitut, on dit d'ersatz. Qu'est-ce qui est arrivé, nous dit le Midrash? C'est que, finalement, vous rappelez que Shrem avait violé Dina. De ce viol est née une fille. Cette fille, finalement, deviendra la femme de Joseph. Vous suivez les épisodes. Et lorsque Jacob, à la fin de sa vie, cherche une stratégie pour avoir quand même sa 13e tribu, il va diviser la descendance de Joseph en deux tribus, Ephraïm et Ménaché, et ça fera les 13 tribus. C'est clair? Donc c'est quand même la descendance de Shrem par Dina, à travers Asnath, femme de Joseph, qui donnera la 13e tribu, mais de manière avec un handicap. Ça résulte d'un viol. Ça résulte de... Bon, voilà, grosso modo, tous les éléments. Ce qu'il faut retrouver, c'est qu'effectivement, ce visage d'Israël tourné vers les nations s'appelle, dans l'enseignement des prophètes, Ephraïm. Ephraïm, c'est le visage d'Israël tourné vers les nations. C'est-à-dire, c'est l'insertion de Joseph dans l'histoire universelle à travers Dina et à travers Shrem. Mais c'est dans la défigure, c'est dans le chaos, parce que ça n'a jamais pu être... un vrai mariage, si je... Voilà les éléments que je voulais vous donner dans ce problème. Au fond, la deuxième stratégie de Jacob, c'est que quoi qu'il en soit, et quel que soit l'héritage du passé, de l'échec des tentatives précédentes, des scories d'une histoire ancienne où nous avons traversé tous les endroits où on pouvait espérer trouver ce prince Arthur, je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, mais probablement parce que j'ai dû être impressionné par le mythe de Bretagne. Il s'agit de quelque chose d'analogue, il y a aussi une histoire de...
Arthur.
Hein? On cherche avec quoi dire le qui douche. Comment ils étaient les chevaliers là-bas, douze? Alors en tout cas, pour revenir à notre problème, tout de façon, si le diagnostic de Jacob à la fin de sa vie, c'est en fin de compte, quel que soit le passé qu'a été le passé, il y a suffisamment de force à l'intérieur d'Israël lui-même pour que les 12 deviennent 13. Et ça sera imputé, bien entendu, à ce Shrem qui, à l'origine de son histoire, était barbare et qui peut-être, à la fin des temps, se dévoilera comme ayant compris la leçon comment on fait un mariage. Mais, ça y est, grosso modo, ça.
Okay. Vous
voulez une question un peu simple. Pourquoi
est-ce que Jacob, s'adressant à ses deux élus,
ne parle-t-il de leur sens? Oui. Alors, je vais vous dire le verset. À la fin,